France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui 21 octobre 1680, la naissance de la Comédie française.
Il y a trois places de face au troisième étage, au troisième rang de face, ici, à 70 francs.
En scène, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, en scène.
Mille ans d'histoire. Installé d'abord rue Guénégaud à Paris, puis successivement rue de l'Ancienne Comédie, aux Tuileries à l'Odéon, et enfin dans la salle qu'elle occupe depuis 1799, rue de Richelieu, la Comédie française est née il y a plus de 300 ans d'une volonté politique. La décision de Louis XIV de réunir deux troupes parisiennes dans un seul théâtre, qui est aujourd'hui avec l'Académie française et la Cour des comptes, une des plus vieilles institutions françaises, la troupe permanente de comédiens la plus ancienne du monde et la seule à fonctionner comme une société d'acteurs. Comme à l'époque où Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, avait créé sa troupe en 1643, 37 ans avant la naissance de la Comédie française.
Jean-Baptiste Poquelin, Joseph Béjart, Nicolas Bonenfant.
Chaud la soupe.
Georges Pinel, Madeleine Béjart, Catherine Dehurlis et Geneviève Béjart. Lesquels ont fait et accordé volontairement entre eux les articles qui en suivent, sous lesquels ils s'unissent et se lient ensemble pour l'exercice de la comédie, afin de conservation de leur troupe sous le nom de l'illustre théâtre. Item, que les pièces nouvelles de théâtre qui viendront à la troupe seront disposées par les auteurs sans qu'aucun puisse se plaindre du rôle qui lui sera donné. La troupe décidera à la pluralité des voix sans que personne d'entre eux y puisse contredire.
Fait et passé à Paris l'an 1643, le 30e et dernier jour de juin après-midi. Et tous ont signé.
André Blanc, bonjour. C'était la naissance de la troupe de Molière, l'illustre théâtre dont les statuts ont des points communs, on vient de l'entendre, avec ceux de l'actuelle Comédie française. C'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle souvent la maison de Molière, alors qu'elle est née 7 ans après la mort de Molière. Et pourquoi votre histoire aussi, l'histoire de la Comédie française qui vient d'être publiée chez Perrin, elle commence justement par Molière, car au fond c'est à son époque que dans toutes les troupes de l'époque, comme la sienne, eh bien ça fonctionnait, le statut des comédiens était à peu près le même que celui d'aujourd'hui à la Comédie française.
Oui, il ne faut pas exagérer, c'était beaucoup moins rigoureux. Mais néanmoins, les comédiens du début du siècle, avant Molière, n'est-ce pas ? Les comédiens du début du siècle n'étaient pas des saltimbanques comme on le croit en général, mais des associations de personnes qui disposaient, ayant les talents pour faire du théâtre, qui s'engageaient à jouer ensemble, en général pendant un an, de Pâques à Pâques. Et puis, à la fin de l'année, ils allaient dans d'autres troupes. Il y avait comme cela un grand nombre, enfin plus d'une dizaine de troupes à Paris et surtout en province.
Alors justement, avant que la Comédie française apparaisse, il y avait effectivement, lorsque Molière y est revenu après l'expérience malheureuse de l'illustre théâtre, un voyage très long à travers toute la France, absolument, il revient à Paris et à Paris, il découvre plusieurs troupes, il y en avait au moins 4. Il y avait d'abord une troupe, c'était les comédiens italiens, je crois.
Oui, les comédiens italiens, c'était, comme le nom l'indique, une troupe italienne et qui jouait en italien, mais avec des scènes françaises détachées. Ils jouaient en général, d'ailleurs, des comédies uniquement et de la commedia dell'arte. Mmh. Et ces Italiens n'avaient en principe pas le droit de jouer des pièces en français. D'ailleurs, ils n'y tenaient pas. Le public, beaucoup de membres de spectateurs comprenaient vaguement l'italien. Et en outre, leur jeu était tellement expressif qu'ils n'avaient pas besoin de comprendre beaucoup les paroles.
Alors, il y avait une troupe beaucoup plus ancienne qui s'appelait eux-mêmes, d'ailleurs en toute simplicité, les grands comédiens à l'hôtel de Bourgogne, qui étaient plutôt spécialisés, eux, dans la tragédie, notamment Corneille.
Ah, elle est absolument spécialisée. Elle n'était pas tellement plus ancienne. Ils avaient pris la succession des confrères de la Passion dans les années 30, je crois. Mais ils avaient joué... D'abord, il y avait aussi notre troupe du Marais, qui a joué Corneille, qui a joué le Cid d'abord. Mais c'est la troupe la plus illustre, c'était évidemment celle de l'Hôtel de Bourgogne, dont, comment dirais-je, dont Edmond Rostand a fait une satire dans Cyrano de Bergerac.
Alors, vous avez évoqué aussi la troupe du roi au Marais, la troupe du Marais. Oui. Elle est absorbée par celle de Molière, quand Molière vient s'installer à Paris.
Oh, bien après.
Entre-temps, Molière meurt. Et puis, la troupe de Molière, qui continue d'exister, s'installe rue Guénégaud, où elle se trouve lorsqu'en 1680, Louis XIV décide de créer ce qui s'appellera plus tard la Comédie française.
De par le roi, Sa Majesté ayant estimé à propos de réunir les deux troupes de comédiens établies à l'Hôtel de Bourgogne et dans la rue Guénégaud à Paris, pour n'en faire à l'avenir qu'une seule, afin de rendre les représentations des comédies plus parfaites, Sa Majesté a ordonné et ordonne qu'à l'avenir, lesdites deux troupes de comédiens seront réunies pour ne faire qu'une seule et même troupe, et sera composée des acteurs et actrices dont la liste sera arrêtée par sa dite majesté. Et pour leur donner moyen de se perfectionner de plus en plus, Sa Majesté veut que la dite seule troupe puisse représenter les comédies dans Paris, faisant défense à tous autres comédiens français de s'établir dans la dite ville et faubourg de Paris, sans ordre exprès de Sa Majesté. Fait à Versailles, le 21e jour du mois d'octobre 1680.
Et c'était la naissance donc de ce qui s'appellera bientôt, je crois qu'à l'époque c'était les comédiens ordinaires du roi, la comédie française. À quoi correspond, André Blanc, cette décision de Louis XIV, comme ça, de faire fusionner les deux pratiquement seuls? Il restait encore les comédiens italiens.
Eh bien, je ne suis pas Louis XIV, et je ne connais pas toutes ces motivations, mais elles sont de plusieurs sortes. Il y a une volonté centralisante du roi, qui aimait bien centraliser. Et d'autre part, cela permet d'éviter des concurrences et des tensions qui pouvaient être fâcheuses, vu d'un certain point de vue, entre la troupe de l'Hôtel de Bourgogne et la troupe de Molière. Et puis, il y avait aussi cette idée classique qu'on doit rechercher la perfection. D'ailleurs, le mot de parfait, l'adjectif,
apparaît
est prononcé
dans la lettre de cachet.
Et Louis XIV s'imaginait qu'une seule troupe serait plus à même d'avoir d'excellents acteurs et d'obtenir une perfection dans le jeu. D'ailleurs, ça ne se ressemble pas beaucoup, mais Richelieu, lorsqu'il avait fondé l'Académie française, l'avait fait en pensant à la même chose, en cherchant la perfection. Il pensait que 40 bons hommes réunis, d'abord il y en avait 24, puis ensuite 40, allaient, par leur discussion, pouvoir créer une littérature meilleure que celle qu'on n'avait jamais vue partout. C'est un peu le même esprit. Et puis alors, Louis XIV fait aussi quelques économies, parce qu'avant, il donnait des pensions ou des gratifications aux différentes troupes. Maintenant, il n'en aurait plus qu'une à s'occuper.
Effectivement, avec cette fusion des deux théâtres...
Alors, disons quand même que, en principe, ça ne devait pas priver les Parisiens de spectacle, puisque, alors qu'ils alternaient avec les Italiens, ils allaient jouer désormais tous les jours les Italiens aussi de leur côté à l'Hôtel de Bourgogne où ils sont allés s'installer.
La fusion de ces deux théâtres est à l'origine, je crois, d'une tradition, puisqu'à la Comédie française, avant le lever de rideau, on frappe 6 coups, hein, 2 fois 3, 3 pour la rue Guénégaud, 3 pour l'Hôtel de Bourgogne, et c'est aussi pour prévenir, je crois, tout simplement les machinistes qui étaient sous la scène que le spectacle allait commencer. Alors, il y a aussi quand même quelque chose de très avantageux pour cette nouvelle Comédie française, c'est que si elle s'appelle Comédie française, c'est qu'elle a le monopole des représentations de pièces de théâtre en français, André Blanc.
Absolument, à Paris. À Paris, en province, elle ne l'a pas. Mais à Paris et dans les faubourgs, comme dit la lettre. Ce monopole, elle le gardera jusqu'à la Révolution pour les tragédies, mais au cours du XVIIIe siècle, les comédies seront jouées aussi assez souvent par les Italiens. Néanmoins, ils ne toucheront pas à la tragédie.
Et puis alors, donc, on garantit un peu l'avenir ou la vie, tout simplement, de ces comédiens en leur raccordant une pension, d'où leur nom, d'ailleurs, de pensionnaire. On parle souvent à la Comédie française, enfin, on parle même que de ça, les pensionnaires, les sociétaires. Quelle différence, André Blanc ?
Ça, la différence aujourd'hui n'est peut-être pas tout à fait celle d'autrefois. D'abord, les comédiens la comédie française, sont pas tout à fait pensionnaires du roi, mais pensionnés du roi, ce qui est différent. Ensuite, deuxièmement, il y a deux sortes, à cette époque-là, n'est-ce pas, deux sortes de pensionnaires à la comédie française. Les retraités, tout simplement, auxquels la troupe verse une pension de 1000 livres après 20 ans de service, tant qu'ils vivront. 1000 livres, disons que ça fait 15 000 euros, en gros, pour abréger.
Les premières retraites de France, pratiquement.
Non, parce que ça existait dans les anciennes troupes avant aussi, à l'hôtel de Bourgogne. Et puis, il y a, on appellera aussi pensionnaires ou acteurs aux appointements, ceux qui seront pris à l'essai, qu'on admettra pendant un an, deux ans, en leur versant des appointements fixes, et ce n'est qu'après qu'ils deviendront sociétaires.
C'est-à-dire touchant une part
C'est-à-dire touchant une part. La comédie française comporte, les bénéfices sont divisés en 23 parts, mais il y a plus de 23 comédiens. Parce qu'ils ne touchent pas tous une part.
D'où une expression qui date de cette époque-là et de la comédie française, vous le rappelez, André Blanc, à part entière.
Oui, parce qu'il y a des demi-parts et des quarts de part. On commence en général avec un quart de part. Très vite, on a une demi-part, un trois quarts de part beaucoup plus tard. Et le dernier demi-quart, le dernier huitième, arrive en général tard aussi. Il n'y a pas un grand nombre de comédiens qui aient une part entière au bout de peu de temps. Il n'y a que les plus illustres.
Comédiens de la Comédie française qui, depuis 1680, ont joué dans 5 salles différentes. D'abord rue Guénégaud, là où se trouvait la troupe de Molière et où viennent les comédiens de la troupe qui a été fusionnée de l'hôtel de Bourgogne. Puis rue des Fossés Saint-Bernard, actuellement...
Saint-Germain.
Saint-Germain, pardon, actuellement rue de l'Ancienne Comédie. Avant de s'installer aussi à la salle des machines du palais des Tuileries en attendant de déménager à l'Odéon.
Cette salle dite des machines était magnifique. C'était une des plus vastes de Paris. J'y allais souvent. Ah, c'est à la salle des machines qu'est née l'expression « côté cour, côté jardin ». Fort usité dans notre jargon théâtral pour désigner les deux côtés de la scène. Pourquoi cette appellation ? Parce que le spectateur voyait à sa droite la cour du palais, dite cour des Suisses, et à sa gauche, le jardin des Tuileries.
J'aperçois mon ami du gazon qui traverse les arcades et se dirige vers l'Odéon.
L'Odéon ?
Mais oui, l'Odéon, c'est ainsi qu'on nomme la nouvelle salle de la Comédie française. Vous ne le saviez pas ? Eh bien, qu'en pensez-vous ?
Franchement, je trouve l'ensemble massif, austère, sans élégant. On m'a également parlé d'innovation.
Les spectateurs du parterre ne seront plus debout, mais assis.
Il y aura donc des chaises, comme dans les loges ?
Non pas, mais des banquettes. Oh.
Et oui, on oublie souvent que le théâtre où nous allons aujourd'hui, et puis son vocabulaire, eh bien, ils sont nés de l'évolution, au fond, de la comédie française. Vous le rappelez, André Blanc, par exemple, l'installation des gens du parterre, qui étaient debout avant, et qui sont désormais assis à partir du moment du théâtre de l'Odéon, entre autres. Ça, c'est parce qu'effectivement, il y en avait même, vous le dites, qui étaient sur la scène autrefois.
Oui, on dit que l'habitude avait été prise à cause du succès du Cid en 1737, en 1637. Et elle était conservée. Pourquoi ? Parce que ça rapportait beaucoup. Ces places sur la scène valaient très cher. C'était des places chics. Alors on mettait des banquettes des deux côtés de la scène pour les gens qui voulaient tous des hommes. Les femmes ne venaient pas sur la scène, sauf à quelques représentations spéciales données pour elles. Mais il y avait également des gens qui étaient debout au fond de la scène, ce qui fait qu'on arrivait à avoir plus de 100 personnes parfois sur la scène, ce qui gênait énormément les comédiens. Je voudrais rectifier quelque chose à propos de la salle des machines des Tuileries. C'est que la comédie française n'a jamais connu la salle des machines. Celle-ci, qui était immense et glacée et avec une acoustique détestable, était tombée en désuétude. Et un théâtre avait été entièrement reconstruit par un architecte dont j'oubliais le nom en 1663, simplement en occupant l'ancienne cage de scène de la salle des machines. C'est-à-dire que c'était un théâtre de dimension comparable à celui de la rue des Fossés-Saint-Germain.
On appelait ça parce que c'était, en fait, on y jouait les spectacles à machines.
Ah oui, à l'origine, c'était pour donner de splendides spectacles à
machines. Cette salle des machines n'existe plus, elle a disparu aujourd'hui. Enfin, là où a été pendant quelques années la Comédie française, avant de s'installer donc, à l'Odéon. C'est dans cette salle des machines est née l'expression aussi côté cour, côté jardin.
Oui, c'est ce qui vient d'être dit. Avant, on disait, et on a continué à dire jusqu'au moment de la Révolution, le côté du roi et le côté de la reine.
Alors, en attendant tout simplement de s'installer à l'Odéon en 1680...
Non, en 1782, vous avez raison, à l'Odéon.
Et où, 2 ans plus tard, était donnée une des pièces les plus sulfureuses de l'Ancien Régime, le mariage de Figaro de Beaumarchais. C'était le 27 avril 1784, et l'Odéon, ce jour-là, était plein à craquer.
Faites attention, vous m'écrasez les pieds.
Je ne vois plus les miens, monsieur.
Si vous n'avez pas de billets, inutile d'aplatir les pauvres gens.
Mais de quoi parle-t-il?
Du mariage de Figaro, de monsieur de Beaumarchais.
Ah, mon ami, c'est fou.
À quelle heure est prévue la représentation?
À 6 heures, monsieur, le lever du rideau.
À 6 heures? Trop tard, je serai déjà mort.
Mais la santé de Figaro. Allez, courage. Après tout, ce n'est pas votre vie qui dépend de cette pièce.
Vous avez raison. C'est beaucoup plus que ça.
Je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours. Je lui dirais que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours. Que sans la liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur. Et que ce ne sont que les petits hommes qui redoutent les petits écrits.
La borde ?
Sire ?
Remettrez ceci à l'officier de garde.
Monsieur de Beaumarchais ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
Vous êtes en état d'arrestation. Sur ordre du roi.
Alors, ce mariage de Figaro-André Blanc, c'est à la fois un des plus grands succès de la Comédie française et un des plus grands scandales, évidemment, de l'Ancien Régime.
Plus succès que scandale, parce que le scandale a tenu, si l'on veut, au refus qui a été fait par le roi, par la censure, de le laisser jouer d'abord. Il a eu l'examen de 6 censeurs, les uns disant « on peut la laisser jouer », les autres « on ne doit pas la laisser jouer ». Il faut dire que lorsque Louis XVI l'a entendu, lorsqu'on a fait la lecture à Louis XVI, on la lui a faite dans la première version où la scène se passait à Paris et où était question de la Bastille en toutes lettres. D'où cette fameuse réflexion.
Bah, vous la citez. Oui. Il faudrait détruire la Bastille pour que la représentation de cette pièce ne fût pas d'une inconséquence dangereuse.
Voilà.
Et il dit ça en 1784, c'est-à-dire 5 ans avant la Révolution.
82, oui. C'est un mot historique. Comme tous les mots historiques, rien ne prouve qu'il soit vrai.
Oui.
Ça peut très bien être une...
Mais ce qui montre bien quand même, et ça depuis l'origine, qu'il y avait une censure quand même. C'est pas, certes, c'est un avantage lorsqu'en Louis XIV avait créé la Comédie française, de pouvoir ainsi la pensionner, de lui donner le monopole de toutes les pièces qui allaient être jouées. Il y avait aussi cette volonté de mainmise quand même sur le grand spectacle de l'époque. C'était même le seul. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de radio. Et évidemment, beaucoup de gens y allaient. Donc, c'était un moyen de le contrôler par la censure, par le choix aussi que pouvait faire le roi des comédiens.
Au sens propre, il n'y avait pas de censure préalable sous Louis XIV, lorsque la Comédie française a été fondée. Il y avait une autocensure, bien sûr, exercée par les comédiens, et puis il y avait des à-coups par moments qui se produisaient. On connaît l'histoire de Tartuffe, n'est-ce pas, l'interdiction de Tartuffe. Il est arrivé aussi en 1790, Dancourt a écrit une comédie intitulée « Le Carnaval de Venise » où il mettait en scène, dans des intermèdes, les principaux princes de l'Europe. Et on a jugé que se moquer des princes européens, ça n'était pas très élégant. On a demandé de supprimer les intermèdes, tout simplement. Et il l'a fait, bien entendu. Et le roi a dit de faire ça discrètement, de ne pas avoir l'air d'imposer son autorité. Car Louis XIV, à ce moment-là, était assez extrêmement prudent encore. Et du reste, jamais il a fait sentir de façon lourde son autorité à la Comédie française. La censure a été, au sens propre, créée, la censure préalable, en 1702, à cause d'une petite comédie d'un certain Boindin, qui s'appelait Le Bal d'Auteuil, et où il y avait des jeux de scène équivoques.
Alors, contrairement à ce qu'on a entendu, en réalité, le Mage de Figaro sera joué. Vous rappelez même, André Blanc, que c'était le plus grand succès de l'époque. 68 représentations d'affilée, on n'avait jamais vu ça encore à la Comédie française. Et puis alors, il y a eu, peu de temps après, parce qu'elle est donnée, le spectacle est donné en 1784, peu de temps après, il y en a encore un autre scandale d'une pièce de théâtre beaucoup moins connue, qui était de Marie-Joseph Chénier, qui était Charles IX. Et là, effectivement, il y a eu une censure importante, parce que cette pièce mettait en cause, nous sommes à la veille de la Révolution française, elle mettait en cause le rôle du pouvoir et de l'Église dans le massacre de la Saint-Barthélemy. C'est un scandale qu'on a un peu oublié, mais Charles IX, ça a beaucoup ébranlé la Comédie française.
Oui, je reviens un instant sur Le Mariage de Figaro, parce que ce n'est pas du tout le peuple qui a fait le succès, ni même le parterre du Mariage de Figaro, c'est l'aristocratie qui occupait les loges. C'était l'opposition, les aristocrates ont peut-être mal compris, si vous voulez, ou n'ont pas vu la portée subversive de la pièce, mais ils s'opposaient à ce qu'ils jugeaient le despotisme de Louis XVI, et tous les plus grands noms de France, à commencer par la reine Marie-Antoinette, ont soutenu Beaumarchais et fait tout ce qu'ils pouvaient pour obtenir le Mariage de Figaro. Charles IX, c'est autre chose, parce que Charles IX, justement, ce n'est plus l'aristocratie qui l'a défendu, c'est le peuple, à ce moment-là. En 1788, ça n'a été joué qu'en 89, et puis pas très longtemps, parce que cela causait des mouvements divers. Oui, il y avait, on montrait évidemment la collusion du pouvoir et de l'Église dans les... On voyait le cardinal de Guise qui bénissait les gens qui allaient égorger les protestants, n'est-ce pas ? Et puis, on pouvait faire des rapprochements, et on faisait des rapprochements entre Catherine de Médicis et Marie-Antoinette, qui toutes les deux étaient d'origine étrangère.
Et c'était l'année même d'une révolution qui allait bouleverser l'histoire de la Comédie française et lui-même lui faire changer de nom pour se mettre à la mode.
Monsieur Florence demande que l'on remplace l'appellation de comédiens ordinaires du roi par théâtre national. Vous ne semblez pas d'accord, monsieur Mollet.
Prenons garde, mes amis, qu'en renonçant à la qualité de comédien ordinaire du roi, nous ne devions aussi renoncer à la pension annuelle que sa majesté alloue à la compagnie. Imaginez que vous perdiez par un patriotisme malentendu les fruits de la générosité royale. Croyez-vous pouvoir vivre avec les 25 ou 27 000 livres que vous rapportent vos parts ?
Nous allons voter à main levée. Ceux qui sont pour la suppression de la pension. Ceux qui sont contre. Arrêtez à la pluralité de 14 voix contre 12, qu'attendu le vide qui se trouve dans les finances de l'État, nos représentants pourront voter la suppression de la pension annuelle que Sa Majesté fait à la compagnie.
Alors la révolution 1789 a été aussi une révolution pour la Comédie française. Elle a changé de nom, on l'a entendu. Elle s'appelle le Théâtre de la Nation, comme ça on ne mécontente personne. Elle perd aussi la tutelle royale, puisqu'elle passe, je crois, sous la tutelle de la municipalité parisienne.
Exactement.
Elle perd également son monopole, puisqu'on autorise désormais l'apparition de nouveaux théâtres.
Ça a été la première mesure prise par l'Assemblée constituante.
Et puis alors, surtout, elle éclate, elle se divise profondément, comme la France se divise, il va y avoir une scission au sein de la Comédie française, André Blanc.
Absolument, entre les comédiens royalistes, si l'on peut dire, et puis les comédiens jacobins ou républicains, n'est-ce pas, qui ont décidé, après Charles IX, de se séparer et de fonder un théâtre spécial.
Après Charles IX, je précise la pièce.
Après la pièce, bien sûr. De faire un théâtre qui a porté plusieurs noms avant de s'appeler Théâtre de la République, et dont le principal, dont chef de file, a été Talma.
Alors Talma, le grand, parce que évidemment, la plupart des noms des comédiens du passé, alors que tout le monde les connaissait à l'époque, on les a un petit peu oubliés. Talma, c'était le grand nom, un des plus grands noms de comédiens de la Comédie française.
Oui, on se souvient un peu de Lequin et beaucoup de Talma à cause de sa familiarité avec Napoléon, parce que c'était le comédien de Napoléon. Mais ça a d'abord commencé par être un jeune homme plein de hardiesse dans les mises en scène, puisque pas la première fois qu'il a joué, mais un certain jour de 91, je crois, il est apparu dans le Brutus de Voltaire habillé à la romaine. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une cuirasse, des chausses, des hautes chausses, un tonnelet, un casque à plumes, etc., il avait la toge blanche et il était jambes nues et bras nus et jambes nues dans des sandales. Ça a été un très gros scandale parmi ses camarades et parmi le public, mais ça a été le premier point le premier pas vers une reconstitution véritable, aussi exacte que possible, des costumes.
Alors,
et là, ensuite, la Révolution a beaucoup, et Talma a beaucoup pratiqué cela.
Alors, Talma, qui était un révolutionnaire avant d'être un ami de Napoléon, c'est lui qui fait la scission, qui s'en va s'installer à l'endroit même où se trouve l'actuelle Comédie française, rue de Richelieu, il crée le théâtre de la République. Et puis alors, tandis que le théâtre qui est toujours à l'Odéon, le théâtre qui a pris le nom de Théâtre National, lui, alors, il est victime vraiment d'une censure terrible. On censure tous les grands auteurs classiques. Vous montrez la façon dont Racine a été censuré. On a même arrêté les auteurs, justement, de ces théâtres de la Nation qui ont failli mourir et être condamnés à mort pendant la Révolution. Et on a supprimé, tout simplement, ce théâtre-là. La Comédie française, ou bien elle éclate, ou bien elle n'existe plus. Elle a failli y passer, cette Révolution,
Absolument. Et elle s'est reconstituée peu à peu à partir de 1795 sous l'influence de comédiens et de comédiennes énergiques, dont Mademoiselle Raucourt, et aussi grâce à quelqu'un qui était un auteur qui est devenu un des directeurs au moment du directoire, et qui était François de Neufchâteau, et qui a aidé à reconstruire cette comédie qui a été à peu près, en 1789 ou en 1800, elle avait retrouvé à peu près l'aspect qu'elle avait sous l'Ancien Régime.
Et elle s'installe rue de Richelieu. Elle n'en a pas bougé depuis deux siècles.
C'est là elle a essaimé.
Elle a essaimé. Et puis surtout, alors elle se dote de nouveaux statuts. Notamment, il y a cette anecdote extraordinaire. Quand Napoléon part en campagne en Russie, désastreuse campagne de Russie, incendie de Moscou. Il est à Moscou en plein incendie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien de mieux à faire qu'à rédiger des statuts de la Comédie française. Pratiquement les derniers, bon, elle a relativement peu changé depuis. Elle reste un théâtre subventionné à 80% aujourd'hui. Elle continue de créer des pièces qui a provoqué d'immenses scandales comme Hernani. Elle reste très fidèle à ses premiers auteurs, puisque j'ai remarqué que parmi les pièces les plus jouées, c'était toujours Molière, de très loin, 33 000 représentations depuis 1680, dont les sept premières pièces, dont les pièces de théâtre ont été représentées. C'est assez extraordinaire cet attachement en fait au passé de cette Comédie française.
Cela a toujours été de son rôle, n'est-ce pas? Dès qu'elle a été conçue, elle a créé des pièces nouvelles, mais a toujours aussi représenté ce que l'on considérait comme les chefs-d'œuvre de Corneille et de Racine. On avait déjà, au XVIIIe siècle, cette idée de chef-d'œuvre remarquable du théâtre français.
Merci André Blanc. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Histoire de la Comédie française » de Molière à Talma, c'est-à-dire à la Révolution, publié aux éditions Perrin. Vous avez pu entendre des extraits du feuilleton radiophonique « Grande et petite histoire de la Comédie française », une adaptation du livre de Maurice Levert, édité chez Fayard, un grand historien du XVIIIe siècle décédé il y a deux ans. Ce feuilleton, réalisé par Catherine Lemire, a été diffusé sur France Culture en 2007. Vous avez pu entendre également des extraits des films Molière d'Ariane Nouchkine, disponible en DVD aux éditions Bel Air Classique, et Beaumarchais l'Insolent d'Edouard Molinaro en DVD chez Studio Canal. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sophie Moreno et Patrick Henry. Documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.